Bien, ce matin, je vous invite de nouveau à retourner dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 1er, où nous porterons notre attention encore une fois sur les paroles que l'Éternel a données à son serviteur Malachie de prononcer pour son peuple d'Israël. Et nous avions vu déjà la dernière fois que le premier reproche que l'Éternel avait fait par rapport à Israël, c'était concernant l'attitude d'Israël en rapport à l'amour de Dieu pour eux, hein, le doute qu'ils avaient dans leur cœur que Dieu avait cet amour sincère pour eux. Et à partir du verset 6, eh bien, nous avons encore un autre reproche qui est fait par l'Éternel concernant, eh bien, le service envers l'Éternel par rapport au sacrificateur. Hein, faut vous rappeler que on est ici dans une situation où effectivement le peuple malgré tout ce que Dieu avait montré hein, dans son amour et dans sa grâce, dans sa miséricorde par rapport à ce peuple, on avait encore un peuple qui était insatisfait, mécontent. Et ici, il va s'adresser au sacrificateur. Et donc, nous porterons nos regards donc, sur ce que l'Éternel avait à leur dire à cette époque-là. Donc, à partir du verset 6, si vous voulez bien, Malachie chapitre 1er, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. En profanant l'alliance de nos pères, Judas s'est montré infidèle. Pardon, j'ai sauté une page à cause du ventilateur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. et nous arrêterons notre lecture ici ce matin. Mais comprenons bien ici que ces reproches que l'Éternel adressa à ses serviteurs et à ses sacrificateurs, doivent nous interpeller chacun par rapport à la manière dont nous considérons effectivement le nom de l'Éternel. Ici, on avait des serviteurs qui avaient méprisé le nom même de l'Éternel. Et je crois que nous devons faire attention et devons veiller que chaque jour, et surtout quand nous nous réunissons pour le culte d'adoration, que nous ayons vraiment à cœur d'honorer l'Éternel, d'honorer son nom. Et donc en étudiant ce texte, je dois avouer que moi-même, j'ai été interpellé, moi-même, j'ai dû regarder à ma propre vie et voir les choses qui n'allaient pas encore. Est-ce qu'il fallait laisser tomber? Est-ce qu'il fallait que je remette en place dans ma vie? Parce que il est facile de tomber dans un mécanisme, de tomber dans une routine, de faire les choses et parfois même de ne plus prendre plaisir dans ces choses-là parce que on oublie, malheureusement, bien facilement, pour qui et pourquoi nous le faisons. Et je dois dire aussi que ces derniers temps, l'Éternel, par sa parole et par l'œuvre de l'Esprit-Saint dans mon cœur, il a secoué un peu ma vie spirituelle. Il a manifesté clairement les choses qu'il y avait encore dans ma vie qui avaient besoin d'être délaissées et de revenir, à une vision bien plus précise et plus claire du ministère et du service pour le Seigneur. Et donc ça a eu un effet d'électrochoc, un électrochoc bénéfique. Et surtout quand on lit ce passage-là, de voir que malgré toutes les bontés de Dieu, il est malheureusement possible pour des serviteurs de Dieu et pour des chrétiens d'avoir ce même genre d'attitude qu'avaient ces sacrificateurs à l'époque de Malachie. Donc assurons-nous de véritablement honorer le Seigneur par notre vie et surtout lorsque nous venons ensemble pour son service et pour son culte. Je crois que la première chose que je veux vraiment souligner dans ce passage, c'est ce que nous revoyons dans les versets 6 et 7, c'est d'élever son nom à sa juste valeur, n'est-ce pas? Parce que ici, l'Éternel va utiliser une sorte de comparaison à un fils qui honore son père et un serviteur son maître. Ce sont les choses que, normalement, ça devrait être le cas. Ça devrait couler de source qu'un fils honore son père, qu'un serviteur honore son maître. Et la question de l'Éternel, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur? Ça devrait être aussi logique pour nous d'honorer Dieu que lorsque nous honorons nos parents, lorsqu'ils nous demandent de faire les choses, ou lorsque notre employeur nous dit, il faut que tu fasses cette mission-là, que tu accomplisses cette tâche-là, et que nous honorions cela, l'Éternel attend la même chose. Et là, il souligne combien ces sacrificateurs donc avaient méprisé son nom. Et leur question qui, encore une fois, montre le mépris qu'ils avaient pour l'Éternel, soit ils étaient véritablement inconscients de ce qu'ils faisaient, soit ils avaient vraiment cette attitude dédaigneuse envers l'Éternel en rétorquant « En quoi est-ce qu'on a méprisé ton nom ?» Vous le savez, vous qui avez passé du temps à lire et à méditer la parole de Dieu, que les noms dans la parole de Dieu ont une importance significative, que les noms même que l'Éternel possède ont une grande importance, une signification, parce qu'ils nous révèlent qui il est dans sa nature, dans sa personne, et en prenant conscience de tous ces noms-là, de qui il est, nous sommes amenés donc à honorer et respecter, à avoir une attitude révérencieuse devant l'Éternel. Et parmi les divers noms sous lesquels il s'est présenté à l'être humain, il nous permet donc de le connaître. Il est Elohim, le Dieu puissant. Il est Dieu. Il est El Elyon, le Dieu très haut. Il est El Olam, le Dieu éternel. El Roi, le Dieu fort qui voit. El Shaddai, le Dieu tout puissant. Adonai, le Seigneur, n'est-ce pas? Il est l'Éternel, Yahvé, c'est je suis, c'est un éternel présent de toute éternité, il existe. Il est celui qui pourvoit, Yahvé Jiré. Il est celui qui sanctifie, Yahvé Makadeshem. Yahvé Nissi, il est notre bannière. Yahvé Rapha, il est notre guérisseur. Yahvé Roi, il est notre berger. Il est également l'Éternel des armées. Il est Yahvé Shalom, notre paix. Yahvé Tsikednou, hein, l'Éternel, notre justice. Et donc tous ces noms par lesquels Dieu se révèle dans sa parole nous montrent qui il est, nous montrent tous ces aspects de sa personne, de ce qu'il est, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il a accompli. Et tous ces noms devraient nous amener, nous, lorsque nous prenons le temps de vraiment considérer leur signification, leur valeur, devraient nous amener à une attitude de révérence et une attitude qui va chercher à honorer le nom de l'Éternel. Mais la charge ici de l'Éternel contre ses sacrificateurs, eh bien, doit effectivement nous interpeller au plus haut point et ne pas nous laisser indifférents. La situation spirituelle, oui, a été désastreuse parce que le peuple s'était éloigné de Dieu, mais aussi parce que ceux qui avaient cette responsabilité spirituelle d'être ceux qui devaient montrer l'exemple pour le peuple, de ceux qui devaient enseigner le peuple, eh bien, par leur attitude, méprisaient, déshonoraient le nom de l'Éternel. Alors, je crois qu'il faut bien être clair sur ce que cela implique et ce à quoi ça correspond. Dans son essence, ça revient à blasphémer Dieu. Et je crois que quand on associe hein, ce terme de blasphémer avec le fait de ne pas respecter, d'être irrévérencieux, de déshonorer le nom de Dieu, on se dit « Ouh, là, c'est grave ». Parce qu'on associe toujours cette notion de blasphème comme pratiquement être le péché le plus grave qu'on pourrait faire, n'est-ce pas ? Le blasphème se dit hein, des paroles qui outragent intentionnellement Dieu, hein, qui dégradent tout ce qu'il est et ce qu'il a accompli, hein, notre manière de regarder Dieu. Mais le danger ici, ce n'est pas nécessairement que ces sacrificateurs avaient dit des choses odieuses vis-à-vis de Dieu, c'était dans leur attitude. Dans leur attitude. Dieu ici, donc, leur reproche d'avoir méprisé son nom. Et l'Éternel se sentait doublement méprisé par ses chefs spirituels de l'époque. Hein, il y avait une telle routine qui s'était installée hein, dans leurs actions qu'elle s'est identifiée avec du mépris parce qu'ils avaient dissocié la tâche, la responsabilité avec la raison pour laquelle ils devaient les accomplir. En outre, les sacrificateurs, en s'élevant eux-mêmes au-dessus de Dieu, hein, par leurs questions, leurs réponses qui sont des questions, affichaient ouvertement leur dédain vis-à-vis de l'Éternel. On voit des personnes qui finalement étaient plus préoccupées par leur propre renommée que le fait d'honorer le nom de l'Éternel. Comprenons bien que déshonorer Dieu, mépriser l'Éternel, mépriser son nom, devrait être vu par chacun d'entre nous comme quelque chose de hautement révoltant. Mais alors la question doit être aussi pour nous, est-ce que nous n'avons pas agi de cette manière-là également ? Le mot méprisant est associé à quelque chose qui, quelqu'un qui va juger, quelqu'un qui va juger et montrer, pointer de manière indigne les choses qu'ils estiment être mauvaises chez l'autre. Le mépris, c'est une attitude, peut-être même plus choquante que le dédain. Ici, de tous les hommes, hein, ces sacrificateurs, ce sont ceux qui auraient dû avoir le plus profond respect pour Dieu parmi le peuple. Ce sont ceux qui, parmi le peuple, devaient être les plus proches de l'Éternel. Mais que faisaient-ils ? Ils le méprisaient, ils jugeaient sans importance hein, le fait d'être à son service et ils montraient de l'insolence. Hein, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Il y a là, oui, une arrogance ahurissante hein, de la part de ces sacrificateurs. Dieu leur dit qu'ils ont méprisé son nom et leur première réaction, c'est de prétendre que Dieu ne sait pas de quoi il parle. Mais en quoi est-ce que... De quoi est-ce que tu parles ? Se comporter ainsi, comme si Dieu était à côté de la plaque, oui, ça relève du blasphème. Et ces choses sont donc extrêmement graves. Et je crois que nous devons tous nous rendre compte de cela et avoir cette humilité hein, de faire cette introspection hein, sur notre propre vie, notre propre relation avec le Seigneur. Alors quand on a une attitude telle que celle de ces sacrificateurs, eh bien, il ne faut pas grand-chose pour que cela se voie dans les actions, n'est-ce pas? Les actions résultent de l'attitude, résultent de ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que bon, quand on éduque des enfants, on cherche à encourager tout ce qui est bon. On cherche à corriger hein, les mauvaises attitudes. On cherche à corriger lorsqu'ils montrent de l'irrespect envers les parents, envers les adultes, etc. Et on veut que cet enfant puisse donc apprendre ce que c'est que le fait d'honorer, de respecter quelqu'un et d'avoir les bonnes attitudes. Mais on sait aussi que lorsque on a des personnes qui sont en responsabilité spirituelle, qui ont ce genre d'attitude, ils ne vont pas forcément corriger cela chez les autres. Et ici, dans sa charge envers les sacrificateurs, l'Éternel donc emploie cette comparaison. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Et donc il va prendre cet exemple de l'affection naturelle qui naturellement doit exister entre un enfant et son père ou qui existe dans la société entre un employé et un employeur. Et il montre ici que si eux reçoivent, si vous savez montrer de l'honneur à vos parents, montrer de l'honneur à vos employeurs, comment se fait-il que vous me manquiez d'honneur et que vous méprisiez mon nom? Dieu avait manifesté son amour. Et cet amour visible, cet amour que chacun, à l'époque de Malachie, aurait pu voir et constater, ils l'ont dédaigné, méprisé. Et à cause de cela, ils étaient devenus incapables d'apporter cet honneur à l'Éternel. Au nom de leur fonction aussi, ils auraient pu et ils auraient dû savoir que leur attitude méritait correction, que leur attitude était du péché dans leur cœur, et ils auraient dû savoir, mais aussi faire ce qu'il fallait pour corriger cela. Le Seigneur, hein, ici, va donc reprendre ces sacrificateurs, leur montrer en quoi, effectivement, ils ont méprisé le nom de l'Éternel. Mais ce qui est vraiment hautement regrettable ici, c'est encore leur attitude que lorsque l'Éternel montre à quel point eh bien, leur péché est présent, ouvert, visible, qu'ils ont refusé de laisser cette accusation toucher leur cœur. En quoi? En quoi est-ce qu'on t'a méprisé? Par cette question méprisante, encore une fois, ils ont montré la dureté de leur cœur. Ils ont montré à quel point ils étaient éloignés de Dieu. Ils n'ont pas une attitude éternelle, qu'ai-je fait? Ils n'ont pas une attitude éternelle, aie pitié de moi, je suis pécheur. Aide-moi, change-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. L'Éternel n'a pas vu de cœur contrit ou brisé. Mais la question pour chacun d'entre nous, c'est même dans notre relation avec l'Éternel. Ou lorsque nous venons nous rassembler pour le culte, est-ce que nous venons avec ce désir d'avoir la plus haute estime possible pour l'Éternel, de vouloir l'honorer, de vouloir l'adorer, de vouloir remplir nos responsabilités avec joie et ne pas mépriser en se disant « mais quelle fatigue, quel ennui !» mais de vraiment entrer dans les portes avec joie dans le cœur pour louer le Seigneur. Et les images que nous voyons dans ce passage conservent aujourd'hui toute leur signification et leur pertinence. À chaque génération, le peuple de Dieu entretient la même relation avec lui. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs, et nous devons l'aimer, nous devons lui obéir, nous devons avoir la joie et de voir le privilège que nous avons de pouvoir servir l'Éternel, de pouvoir être ceux que l'Éternel a choisis pour proclamer son nom, pour partager sa parole autour de nous. Et en lisant donc le message ici du Seigneur qu'il a adressé à Israël autrefois, posons-nous la question. Est-ce que nous faisons mieux? Ou bien l'Éternel a-t-il aussi des reproches à nous faire? Est-ce que l'Éternel nous dit « Où est mon honneur ?» Est-ce qu'il nous demande « Où est la révérence qui m'est due ?» Et je crois que malheureusement, beaucoup de chrétiens viennent au culte sans chercher véritablement à honorer le Seigneur, à avoir cette haute estime, cette révérence pour sa personne, pour ses œuvres. Que dit le Seigneur de notre amour pour lui? Est-ce que notre vie spirituelle actuellement serait semblable à celle de cette église d'Éphèse qui est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse par rapport au fait qu'elle avait perdu son premier amour? C'est une église qui faisait les choses qu'il fallait, avait les positions qu'il fallait, enseignait correctement la doctrine. Mais voilà, cette flamme qui devait animer cette église, cet amour du Seigneur, cet amour pour le Seigneur, était absent. Et je crois que lorsque nous en venons à cela dans notre vie chrétienne, d'avoir ce manque d'amour vis-à-vis de Dieu, on peut peut-être s'efforcer de faire les choses, et encore une fois de tomber dans ces mécanismes, de ces routines. Oui, je viens le dimanche matin, on va chanter, on va prier, on va écouter le message, et on va rentrer à la maison. Et on tombe dans cette routine, comme si c'est une responsabilité, peut-être pour certains même une corvée que d'être à l'église. Et il faut faire attention. Et ce qui va être déterminant pour nous par rapport à cette situation-là, c'est ce que l'Éternel avait mentionné en tout premier dans ce chapitre. Je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Et qu'en est-il de vous? Le Seigneur nous pose-t-il cette même question qu'il a adressée à ses disciples il y a bien longtemps. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Là, on peut avoir les bonnes pratiques, on peut même avoir les bonnes paroles, Seigneur, Seigneur, mais si l'obéissance ne suit pas. Et cette obéissance montre aussi quelque chose, parce que dans Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc on comprend bien que notre relation avec le Seigneur, oui, c'est une relation d'amour, et cet amour doit nous amener à le magnifier lui, doit nous amener à l'honorer, doit nous amener à nous mettre à son service et à suivre ses commandements. Donc Dieu, oui, s'attend à ce que son nom soit respecté, tout particulièrement par ceux qui ont une responsabilité de conduire le peuple dans la spiritualité, ceux qui ont du discernement, ils savent cela. Et c'est moi partager avec vous un verset dans le psaume 138, verset 2, qui montre l'attitude que nous devrions avoir. « Je me prosterne dans ton Saint-Temple. » Se prosterner, c'est s'humilier. Se prosterner, c'est se mettre sous les ordres. Se prosterner devant quelqu'un, c'est l'honorer, c'est l'élever lui. « Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Donc l'adoration de Dieu par rapport à qui il est, par rapport à son nom, pourquoi? Parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Car ta renommée s'est accrue pour l'accomplissement de tes promesses. Parce que Dieu est un Dieu qui tient parole. Mais notez aussi que dans ce passage, l'Éternel associe un tel affront à la qualité du service du culte. C'est-à-dire qu'il faisait les choses, mais ne recherchait pas l'excellence dans ce qu'il faisait. Il n'est nul besoin d'employer des paroles odieuses vis-à-vis de l'Éternel pour mépriser son nom, n'est-ce pas? Ici, il est question de l'attitude et de la manière dont nous faisons les choses pour le Seigneur. Blasphémer peut, oui, insidieusement et simplement se situer au niveau de notre attitude envers Dieu, de notre service et le culte que nous lui apportons. Nous pouvons donc nous assurer de véritablement honorer le Seigneur, oui, en respectant son nom, mais aussi en servant et en apportant un culte saint et sincère. Et là, dans les versets 8 à 13, l'Éternel va montrer ce qui n'allait pas dans l'attitude, dans la manière dont ces sacrificateurs apportaient ce service et ce culte à Dieu. Ils déshonoraient le nom de Dieu parce qu'ils apportaient un culte d'apparat. Il y avait les choses qu'il fallait, mais c'était vide. Un peu comme lorsque le Seigneur Jésus avait apporté cette critique aux pharisiens en les appelant sépulcres blanchis, c'est-à-dire que l'apparence extérieure donnait l'impression que tout allait bien, mais l'intérieur restait un sépulcre, un tombeau, la mort. Et donc le verset 7, ici, nous apprend que les prêtres offraient à Dieu de la nourriture souillée. Le verset 8 nous indique qu'ils lui présentaient des bêtes aveugles, boiteuses ou malades, alors qu'ils étaient censés offrir ce qu'il y avait de meilleur à Dieu. Mais ils avaient fini par apporter ce qu'ils avaient de pire, ce qu'ils pouvaient, ben tiens, ça je peux m'en débarrasser, c'est pas grave. Hein, et ça ne devient même plus un sacrifice, c'est on s'en débarrasse. Ils sacrifiaient précisément les animaux qui risquaient de mourir à très court terme. En somme, ils ne sacrifiaient finalement rien du tout. En fait, ils faisaient cela pour eux-mêmes, pour se donner l'impression et l'impression aux autres d'avoir fait quelque chose de juste et d'honorable. Pour appuyer son propos, ici le Seigneur les met au défi d'agir de la sorte avec leur gouverneur. Est-ce que si on avait justement cette situation de gouverneur ou une personne d'autorité à qui nous devrions apporter des sacrifices ou des impôts, si vous voulez, mais d'apporter ce que nous avons de pire? Est-ce que l'on pense que le gouverneur serait content et satisfait? Aucun dirigeant politique de l'époque n'aurait apprécié que son peuple s'acquitte de ses impôts en offrant des animaux malades. Et je crois que pire encore, dans ce que le Seigneur nous dit, c'était pas simplement des bêtes infirmes, certaines étaient même dérobées, c'est-à-dire que c'était même pas un sacrifice qu'ils apportaient parce que ça n'en appartenait même pas. Et en leur suggérant donc de présenter ces offrandes sans valeur au gouverneur, ici le Seigneur propose à son peuple, à toutes les époques, eh bien, une épreuve précieuse pour évaluer la manière dont nous le servons. Est-ce que nous donnons le meilleur de nous-mêmes? Est-ce que nous offrons à Dieu ce que nous avons de mieux dans notre vie? Offrons-nous à Dieu donc le meilleur de nous-mêmes dans l'adoration? Telle est la question. Et lorsque l'on vient le dimanche matin ici, est-ce que l'on vient avec vraiment cette attitude révérencieuse envers Dieu? Parce que si nous avons cette attitude révérencieuse, si nous sommes dans l'admiration de sa personne, on ne peut pas rester muet. On ne peut pas rester sans rien dire, sans apporter de louanges, sans glorifier Dieu. Je dois avouer que très souvent le dimanche, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi y a-t-il si peu de chrétiens qui prient le dimanche matin? Pourquoi? On ne devrait pas avoir honte de quoi que ce soit si notre cœur est en règle avec le Seigneur. On ne devrait pas être timide ou même se demander ce que les autres penseraient de nos prières. Nous sommes en Christ, nous sommes un seul et même corps. Et nous ne voulons pas, et nous ne ferons pas d'agir avec ce genre d'attitude de mépriser ceux qui n'arrivent pas bien à prier selon des critères qu'eux-mêmes auront définis. Mais pourquoi? Posons-nous cette question. Pourquoi ne suis-je pas dans cet émerveillement de Dieu au point où, oui, chaque dimanche, j'aurais envie d'exalter son nom dans la prière? Le Seigneur Jésus avait fait ce reproche aux personnes de son époque en recitant ce que Ésaïe avait déjà dit. Il dit en Matthieu 15, versets 7 à 8, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. » » Est-ce qu'on se prépare pour l'adoration? Est-ce qu'on se prépare spirituellement lorsqu'on vient ici, on se réunit? Est-ce qu'on vient préparer avec l'idée, je veux ôter tout péché de ma vie, je veux enlever toute distraction, je veux consacrer mes pensées et mon cœur sur l'Éternel pour que ce culte, eh bien, ensemble, nous puissions lui apporter quelque chose qui soit d'une odeur agréable. Est-ce que nous avons ce même genre d'attitude où, oui, nos lèvres peuvent chanter, mais notre cœur n'y est pas? Nos lèvres peuvent peut-être honorer dans la prière, mais nous n'avons pas cette attitude révérencieuse envers le roi des rois. Et pour redonner vie à une foi vacillante, eh bien, il faut cesser de chercher des excuses. Il faut reconnaître ce qui est. Oui, j'ai manqué à l'Éternel. Je n'ai pas apporté tout ce que j'ai de mieux. Je n'ai pas cherché à l'honorer comme je dois l'honorer. Je n'ai pas apporté un culte qui lui a été agréable parce que je suis venu avec de mauvaises pensées, peut-être avec du ressentiment, peut-être, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faut arrêter de chercher les excuses et de regarder à quel est véritablement le problème. Parce qu'un peu plus loin, notez ce que l'Éternel dit au verset 10. « Je ne prends aucun plaisir en vous. » En fait, tout ce qui aurait été fait avec l'apparence de la piété, l'apparence d'apporter un culte d'adoration à Dieu, l'Éternel lui voit les cœurs et ne prend pas plaisir dans ceux qui ont des lèvres qui l'honorent, mais dont le cœur et l'attitude sont complètement à l'opposé. Il dit, les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Comprenons aussi que ceci est lié à l'état de notre âme, de notre cœur. Lorsque notre âme, notre cœur est sincère en cherchant la présence de l'Éternel, en nous réjouissant d'être ensemble dans sa présence, eh bien ça change les choses. Le cœur est un facteur déterminant, n'est-ce pas? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la repentance. Mais ici, dans les versets 11, Dieu, oui, avait déjà interpellé Israël sur son attitude de mépris à son encontre, mais cette attitude ne pouvait pas demeurer sans acte s'assimilant à de la profanation. De la profanation. C'est un pas plus loin. C'est-à-dire, il y a le blasphème, mais en plus de ça, ce sont des actes de sacrilège, de profanation. Et c'est cet aspect que le verset 12 aborde. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées, mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Combien de fois est-ce que nous sommes venus peut-être au culte en se disant, j'attends de voir ce que le Seigneur va faire pour moi? Et on ressort du culte que ça m'a rien fait du tout, parce que finalement, on a peut-être écouté le message, écouté les passages de la parole de Dieu, en se disant, mais ça, c'est pas pour moi. Ça me concerne pas. Et on ressort de là comme si, ouais, ça m'a rien apporté d'être là, à la table de l'Éternel. Mais ici, du fait d'un cœur aveugle à l'amour de Dieu, d'un cœur endurci, refusant de voir la bonté de Dieu, de constater le privilège que c'est de pouvoir être ensemble, de pouvoir l'honorer, de pouvoir le servir. Ici, les sacrificateurs avaient fini non pas par délaisser le culte et le service à Dieu, mais par ne pas prendre au sérieux la responsabilité qu'ils avaient et n'y voyaient qu'une corvée. Je dois le faire. Mais sans le véritable désir de le faire parce que nous aimons le Seigneur. Et de ce fait, les éléments du culte étaient devenus des objets de mépris ici. L'autel aurait dû être vu comme quelque chose de sacré par Israël. Et si, comme l'affirment ici les Israélites, la table est souillée, pourquoi est-ce qu'elle est souillée? C'était à eux la faute, pas à l'Éternel. C'est eux aussi qui apportaient des sacrifices méprisables, des bêtes infirmes, etc. la préservation de la sainteté hein, de cet autel relevait de la responsabilité des sacrificateurs. C'est eux-mêmes qui auraient dû dire au peuple, hey, c'est quoi cet animal que tu ramènes? Tu n'as vraiment rien de mieux que ça à offrir à l'Éternel. Non, ils ont aussi laissé faire. Et dans ce sens, encore une fois, leur responsabilité, ils avaient l'apparence de prendre leur responsabilité, mais finalement, même en cela, quelque part, ils ne s'inquiétaient même pas de ce que les autres faisaient et dans l'erreur qui se trouvait. L'offrande aurait dû être considérée comme un élément sacré du culte apporté par Dieu, mais c'était devenu donc de l'apparat, quelque chose de vide. On le sait, de par la loi de Moïse, que les sacrifices apportés à l'Éternel devaient être des bêtes sans défaut, d'apporter ce qu'il y avait de meilleur, d'apporter les prémices aussi de ce que nous avions et d'apporter ça à l'Éternel. La loi aussi prévoyait qu'une partie des viandes qui étaient sacrifiées revenaient aux sacrificateurs pour leur subsistance. Donc quelque part, je veux dire, ça s'est même retourné finalement contre eux, ces sacrificateurs, parce que s'ils recevaient par rapport à leur fonction et par rapport à leur service pour le Seigneur, eh bien, c'était d'une qualité dégradée, parce qu'eux-mêmes avaient laissé faire, parce que le peuple n'avait pas cherché à honorer le nom de Dieu, parce que les sacrificateurs non plus ne cherchaient plus à honorer le nom de l'Éternel. Alors oui, on peut faire plusieurs parallèles avec notre époque, avec le christianisme aujourd'hui. Le ministère du pasteur est quelque chose d'extrêmement important dans la vie de l'Église, on le sait. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère par ceux qui ont été appelés par le Seigneur à cette vocation. Paul et Jacques nous montrent aussi pourquoi eh bien, les serviteurs de Dieu doivent voir leur responsabilité comme déjà un honneur pour eux-mêmes, un privilège, mais comme quelque chose d'extrêmement important. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 3 et verset 1 à 4, il dit ceci. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire de berger, de surveillant, de pasteur, il désire une œuvre excellente. » Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Donc on comprend que, voilà, cette fonction hein, du responsable dans l'Église est quelque chose qui est extrêmement important. Et parce que c'est si important que ça, ça implique pas des actions importantes, ça implique une attitude, ça implique un caractère, ça implique une proximité avec le Seigneur. Et Jacques, chapitre 3, verset 1er, rappelle qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un grand nombre hein, parmi les personnes dans l'Église qui se mettent à enseigner, parce que nous serons jugés plus sévèrement. Hébreux 13, 17 dit également, obéissez à vos conducteurs et pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Donc ce ne sont pas des choses à prendre à la légère, que ce soit par les serviteurs de Dieu, que ce soit par les membres de l'Église. Qu'il en soit ainsi, rajoute l'auteur aux Hébreux, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous saurait d'aucun avantage. Combien de pasteurs et même de missionnaires ont abandonné? Ils ont abandonné parce qu'ils avaient perdu de vue cela. Ils avaient perdu de vue eh bien, ce privilège de pouvoir servir le Seigneur. Ils avaient perdu l'essence de cela. Ils n'étaient plus dans la joie. Ils faisaient les choses par obligation. Et au bout d'un moment, eh bien, cette situation finit par les pousser à sortir de cette situation-là, sortir de ce service. Parfois, il arrive aussi que des pasteurs remplissent les fonctions, hein, font cette apparence hein, d'être un serviteur de Dieu, et qui ne vont pas intervenir lorsque il va constater il y a un souci, il y a un problème dans la vie de tel frère, de telle sœur, et être passif par rapport à de mauvaises attitudes ou à de mauvaises habitudes que certains auraient. Notez bien la charge de l'Éternel au verset 9 du chapitre 2. Je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Donc là, on avait des serviteurs de Dieu qui, au final, n'étaient pas intéressés de servir l'Éternel, pas intéressés de servir le peuple. Des personnes qui avaient cette apparence et qui eux-mêmes, quelque part, allaient faire les choses selon l'apparence de certains. C'est-à-dire qu'ils avaient une certaine attitude, peut-être avec les personnes qui avaient le plus d'influence dans la société, et une toute autre avec ceux qui étaient moins importants. Ils faisaient du favoritisme. Il regardait, ah tiens, celui-là, là-bas, c'est un docteur, lui, ça serait bien qu'il devienne membre et qu'il puisse avoir une part importante, etc. Et puis, bon, lui, là-bas, bon, celui qui est encore sans emploi, qui est étudiant, c'est pas si important que ça. Comprenez que il y a malheureusement des personnes qui sont dans cette position pastorale, mais tout ce qu'ils font, c'est de l'apparence, c'est pour un gain honteux, et ce n'est plus pour honorer le nom de l'Éternel. Et de ce fait, les reproches de l'Éternel à leur égard, oui, est lourd de sens et de conséquences ici. Et la répétition de ces reproches appuie justement l'importance d'accorder l'honneur au nom de Dieu dans notre service et dans le culte. Ils profanaient. Ça signifie dans l'hébreu de blesser, de poignarder. C'est cette idée-là. C'est un terme fort. C'est un terme grave. C'est un terme que on devrait se dire, si moi je suis en train de profaner, que suis-je devenu? Jusqu'où me suis-je donc éloigné de l'Éternel? Et la manière dont ces prêtres donc profanaient le nom de l'Éternel, c'était par leur attitude, par leurs actes qui étaient vides de sens, vides d'amour, vides d'honneur, des animaux volés, boiteux, malades, qui étaient apportés en sacrifice et ça ne les dérangeait pas. Mais aussi cette lassitude qu'ils avaient par rapport au ministère. Pff, quel ennui, quelle fatigue que de servir le Seigneur. Ça doit nous interpeller à la manière dont nous voyons aussi notre service pour le Seigneur. Pas simplement les responsables d'église, mais chaque membre, un membre d'église a apporté à l'œuvre de Dieu, est appelé à un service pour le Seigneur dans l'œuvre de Dieu. Et je sais que le temps a beaucoup passé déjà, mais laissez-moi juste souligner une troisième chose ici. C'est que nous devons prendre au sérieux l'importance de notre vocation, du service et du culte à Dieu. La mise en garde de l'Éternel ici est quelque chose de très grave. La raison de cette malédiction s'inscrit dans le fait que Dieu est saint, Dieu est juste, et parce qu'il est ainsi, c'est pour ça qu'il prononce ces paroles contre ses serviteurs. Ils avaient entaché cette noble vocation que Dieu avait mise en place pour Lévi, pour ses descendants. Une alliance de vie et de paix, n'est-ce pas? Ce que nous lisons dans les versets 4 à 7 du chapitre 2. Mais ici, ces serviteurs, ils avaient, oui, méprisé le nom de l'Éternel, mais ils avaient aussi déshonoré la vocation que l'Éternel avait apportée en les appelant à son service. Et donc, les sacrificateurs contemporains de Malachie avaient violé cette alliance-là. Encore une fois, ils faisaient en apparence ce qu'ils étaient supposés faire, mais n'en avaient pas le désir et ne cherchaient pas à honorer Dieu. Et ça finit par détériorer, eh bien, le culte à Dieu et le service. Et ça a participé au fait que le peuple s'éloigne encore davantage de l'Éternel. Et donc, Dieu ne pouvait pas laisser ça ainsi. Il ne pouvait pas laisser les choses impunies. Parce que les prêtres, eux, ne se souciaient que d'eux-mêmes et non pas du nom attaché au culte. Dieu ici, vous l'avez peut-être noté ou non, mais au verset 14, Notez de quelle manière Dieu s'adresse à eux, je veux dire, avec quel nom il emploie. L'Éternel des armées. C'est-à-dire, il y a quelque chose on va dire, de grave dans le fait qu'ils disent « Moi, l'Éternel des armées ». C'est cette image, oui, de force, de puissance, cette image que Dieu est celui qui règne, il est le Dieu tout-puissant, et quand on oublie cela, et que ici l'Éternel s'adresse donc à ses sacrificateurs comme « Je suis l'Éternel des armées, je suis un grand roi, je suis redouté parmi les nations ». Il leur rappelle, oui, la grandeur redoutable qui est la sienne. Et si Dieu fermait les yeux sur ce mépris manifesté envers son grand nom, il déshonorerait lui-même son propre nom. Il est saint, il est pur. Et cette malédiction que l'Éternel prononce allait toucher les sacrificateurs, oui, dans les bénédictions que Dieu avait prévues pour eux. Hein, verset 2, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom. Donc, il y a à la fois cette malédiction, mais l'Éternel dit aussi, vous avez encore l'opportunité de changer. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur, c'est-à-dire si vous ne changez pas ces choses-là, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions, oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Donc, notez ici que jusque-là, même Dieu veut manifester sa grâce, recherche la repentance dans le cœur de ses serviteurs, mais ici, ils s'entêtaient par leur réponse. En quoi est-ce qu'on a méprisé ton nom? Cette mise en garde, c'est oui, cette perte de bénédiction, mais aussi Dieu montre l'impact qu'une telle attitude va avoir sur leur propre descendance. Je détruirai vos semences. Et oui, ici, l'Éternel emploie des paroles fortes, des paroles choquantes pour montrer la noirceur et le dégoût que c'est que le péché. Je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous serez rejetés. Vous choisissez cette voie-là. Je vous laisserai aller dans cette voie-là. Mais vous subirez l'opprobre, les conséquences, l'ignominie de ce que le péché produit dans la vie. Et oui, le péché va toujours affecter notre vie, affecter notre entourage, et ses conséquences touchent nos proches, qui parfois même eux-mêmes vont reproduire les mêmes iniquités. Alors oui, ici, il y a un rappel, il y a une mise en garde, mais il y a une malédiction. Mais si vous ne changez pas, voilà ce qui va se produire. Donc tout serviteur de Dieu ferait bien hein, de se rappeler de l'importance de son ministère, l'importance aussi pour les pères de leur rôle au sein de leur foyer, envers leurs enfants, envers leurs épouses. Je vous jetterai des excréments au visage. Il n'y a pas plus acte, on va dire, indigne qui montre l'horreur de ce que ces sacrificateurs étaient venus à faire à travers leur service. Mais ces paroles fortes de l'Éternel n'ont véritablement d'égal que l'horreur de leur hypocrisie, de leur mépris, de la profanation. Le Seigneur déclare qu'il les couvrira de honte et les rendra répugnants. Et je crois que ça doit interpeller sur la manière dont nous venons au culte, la manière dont nous cherchons à servir le Seigneur. Alors bien sûr, en lisant ce passage et en écoutant tout ceci, peut-être certains d'entre vous vous dites « Ah, mais ça concerne les responsables spirituels, les serviteurs de Dieu ». Je crois qu'il y a un élément que vous avez peut-être ignoré dans votre réflexion. C'est que dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous enseigne quelque chose d'important à notre sujet. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on voit les hautes qualifications qu'il fallait pour être un serviteur, un sacrificateur, pour être au service de l'Éternel, la vie de séparation et de pureté à laquelle ils étaient appelés, etc. Et on se dit, oui, ben ça c'était dans l'Ancienne Alliance. Mais Dieu a déclaré les mêmes choses dans l'Ancienne comme dans la Nouvelle. Soyez saints car je suis saint. Mais Pierre nous apporte aussi cet élément dans son premier épître au chapitre 2, à partir du verset 5. Et il parle de l'Église. Il ne parle pas des serviteurs de Dieu. Il parle de l'Église. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Okay? Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Mais notez bien ce qu'il dit Pierre par rapport à ce que nous sommes, nous tous, en Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élu. Et notez bien le prochain terme. Un sacerdoce. Un sacerdoce royal. Ici, ça signifie que, aux yeux de Dieu, nous apportons nous-mêmes les sacrifices à l'Éternel. Nous sommes appelés sacrificateurs. Paul y rappelle même dans Romains chapitre 12 que nous devrions même offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous agissons maintenant en Christ et par Christ, nous sommes vus comme des sacrificateurs. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Voilà qui devrait justement nous interpeller tous sur la manière dont nous considérons le culte que nous apportons à Dieu. Les prêtres dans l'Ancien Testament étaient choisis par Dieu. Ils n'étaient pas autoproclamés. Ils étaient choisis dans un but précis, celui de servir Dieu de tout leur être, d'être ceux qui allaient pour le peuple servir et apporter les sacrifices à l'Éternel. Et de même que les prêtres d'autrefois, nous voyons que nous sommes appelés à offrir des sacrifices spirituels qui soient agréables par Jésus-Christ. Quels sont donc les sacrifices que nous apportons lorsque nous venons ensemble pour l'adoration, pour le culte du Seigneur? Voyons-nous le fait que, en tant que croyants et rachetés, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu, mais cette grâce, elle nous ouvre tellement de choses par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous. Et que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à son service. Et que chacun d'entre nous, nous devrions voir cela avec un privilège. Et que chacun d'entre nous, ce soit avec joie que nous chercherions à servir le Seigneur chaque jour et ensemble en tant qu'assemblée. Nous avons, par Jésus-Christ, accès au trône même de Dieu, accès au Père. Nous qui, autrefois, nous n'étions pas un peuple, mais maintenant, nous avons obtenu miséricorde et nous sommes une race élue, une nation sainte. Un sacerdoce royal. Pensez à ces choses-là. La prochaine fois que nous nous réunirons pour apporter un culte à Dieu, préparez vos cœurs la veille, dès le matin. Voyez comment vous pouvez être un service pour le Seigneur et pour les autres. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Un titre, il rappelle même que nous sommes à ce sacerdoce royal zélé pour faire le bien. Paul, il veut que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Nous pouvons nous approcher de Dieu et c'est une grande bénédiction. Ceux qui avaient ce privilège-là dans l'Ancienne Alliance, c'était limité parmi le peuple. C'était limité aux Lévites. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons tous nous approcher en toute liberté du Père et de le glorifier. Pour finir, laissez-moi simplement citer ce psaume 29, versets 1 et 2, où il dit « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son saint nom. » Que ce soit ça qui anime nos cœurs chaque dimanche lorsque nous nous réunissons. Mais prenez en grande considération les reproches ici que l'Éternel a fait à ses serviteurs et qui pourraient être des reproches envers nous aussi lorsque nous perdons de vue la personne que nous aimons, la personne que nous servons, la grandeur de ce à quoi il nous a appelés, d'être participants à sa nature divine, d'être ceux par lesquels son évangile soit propagé et proclamé. Et n'ayons pas, certainement pas, cette attitude que je dois confesser moi-même à des moments. J'aurais pensé, mais quelle fatigue! Quelle fatigue! Et je remercie le Seigneur que, au cours de ces dernières semaines, il m'a piqué dans mon cœur pour me rappeler toutes ces choses. Sachant donc honorer le Seigneur par notre vie ici ensemble, notre vie de chaque jour, que nous cherchions à l'honorer et le faire avec joie pour sa gloire. Prions.